Alors bonsoir. Oula, le micro est très fort. Bonsoir. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour ce café scientifique. Il y a juste une colonne là au milieu qui m'empêche de voir tout le monde, mais j'essaierai de bouger un petit peu. Tout d'abord, je tiens à remercier Igor Chlebny pour l'organisation de ces cafés scientifiques que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à l'invitation qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer. J'ai vu qu'il y avait un programme très riche avec des discussions, même politiques assez soutenues. Je crois que le dernier sujet était sur les relations du haut entre le haut et le bas, et d'autres thèmes qui sont abordés. Donc c'est vraiment très très chouette. Ce soir, on va aussi avoir l'occasion d'aborder un sujet qui fait beaucoup beaucoup réagir les consommateurs. Qui dit réagir dit forcément être critique. Donc les réactions qu'on collecte à la rédaction et au service juridique de Bon à Savoir sont forcément plutôt négatives, plutôt critiques par rapport à cette problématique du fais tout toi-même, que ce soit dans les factures, dans les commerces, dans les aéroports, dans beaucoup d'endroits du quotidien en fait. Donc on a pas mal de critiques et on va faire le tour de la question ce soir avec les trois invités, mais juste avant de présenter les trois invités et de démarrer le débat, je voulais juste faire deux, trois liens qui sont arrivés entre le moment où j'ai reçu l'invitation de M. Chlebny et puis cette soirée, où j'ai eu l'occasion de répondre à des consommateurs qui nous écrivaient sur d'autres sujets, mais sur ces autres sujets, il y avait des liens dans le magazine Ma Santé, qui est un nouveau magazine que Bon à Savoir vient d'éditer, vient de sortir, qui est là. On a fait un sujet sur les ondes Wi-Fi et comment se protéger des ondes Wi-Fi. Vous allez me dire quel est le lien avec le sujet de ce soir. Il y en a un dans le sens qu'on se retrouve typiquement dans ce genre de problème où un sujet peut être bon pour le consommateur et très mauvais pour le consommateur aussi pour différentes raisons. Par rapport aux critiques sur ces ondes Wi-Fi, j'avais l'occasion de dire ben, voilà, les ondes Wi-Fi okay, ont un effet certainement nocif sur la santé. Ça est en discussion, mais enfin, on sait qu'il y a des études qui démontrent que ce n'est pas bon pour la santé. Mais on ne peut pas dire que le Wi-Fi soit négatif pour le consommateur, pour l'être humain. Ça apporte beaucoup de bien, mais il y a des côtés négatifs. Même chose pour les additifs dans l'alimentation, les additifs alimentaires, aussi un autre sujet qu'on aborde très régulièrement dans Bon à Savoir. Ces additifs, on sait qu'un certain nombre sont vraiment à éviter, qui sont mauvais pour la santé du consommateur, mais ils sont utiles pour que l'aliment arrive chez le consommateur sous la forme qu'il a et qu'il doit avoir. Donc on est dans des situations où rien n'est faux, rien n'est juste, rien n'est bon, rien n'est mauvais. On est dans des entre-deux pour différentes raisons et tout change en fonction de la manière dont on regarde le problème. Et ce soir, on est exactement là. On est exactement dans ce thème-là aussi. Le fait tout toi-même apporte beaucoup d'aide et beaucoup de solutions pour le consommateur, mais en même temps, il y a beaucoup de points négatifs. Et je me réjouis aussi de vous entendre, vous, public, qui assistez à ce débat ce soir. N'hésitez pas à intervenir pendant vraiment les discussions et à apporter votre vécu, vos impressions, vos critiques, positives ou négatives, sur ce thème-là. Donc, je vais vous présenter maintenant le panel, donc les trois invités. Que M. Chlebny a invité lui-même directement. Je vais commencer par celui qui tient un peu le rôle du méchant, on va dire, mais qui a beaucoup de courage d'être là. C'est M. Norbert Albrecht, qui vient de la société Six Paynet, qui est spécialiste vraiment dans le e-facture, dans la facture électronique. Et puis, je vais peut-être vous laisser vous présenter vous-même et puis peut-être rajouter une phrase ou deux sur voilà, ce que ce sujet vous inspire. Comme ça, une phrase.
Je crois qu'il y a une cloche. Vous m'entendez? Ah, c'est parfait, alors. Très bien. Le débat, je trouve intéressant parce que finalement, si on prend ça dans un sens un tout petit peu plus large, on va parler aussi du changement, finalement. Puis chaque changement qui arrive, ben, ça apporte son lot de choses positives, on va dire, et évidemment aussi de choses négatives. Quoi. C'est un petit peu ce que ça m'inspire, ce débat. On va parler de ces deux éléments-là et puis ben, voir un peu quels sont les éléments positifs, négatifs. Plus globalement, ben, je vois dans les changements qui arrivent aussi, on amène aussi une certaine transparence, un certain pouvoir au consommateur qui peut faire peut-être des choses qu'il ne pouvait pas faire. Puis à la fin, je crois que c'est le consommateur qui doit choisir ce qui lui convient le mieux comme solution. Enfin, si je parle du sujet que je connais au niveau des PME, est-ce qu'il préfère aller au guichet de la poste pour payer ses factures ou bien est-ce qu'il préfère les faire sur un clic de son e-banking, quoi.
Merci.
Je vais m'arrêter là.
Deuxième invitée, donc Madame Delpino, qui est secrétaire syndicale à UNIA. Donc là, vous avez aussi une approche très différente, évidemment, de la question.
Une approche assez différente, effectivement. D'ailleurs, c'est notre cheval de bataille. Je travaille plutôt dans les tertiaires. Et on travaille beaucoup avec les vendeuses, vendeurs qui souffrent déjà de cet changement au niveau des caisses, caisses libres ou e-commerce avec la concurrence qu'il y a déjà. Alors après, on va pouvoir développer un peu plus, mais effectivement, ces changements ont des belles choses parce que ça a apporté une chasse à la pénibilité du travail au niveau des tâches répétitives ou des charges très lourdes, mais aussi, au niveau du travail très dangereux. Maintenant, c'est les robots de plus en plus qui font ce travail. Après, c'est un sujet qui est délicat parce qu'on est en train de voir quelles sont vraiment les conséquences qui sont pas tangibles des fois et c'est très d'actualité. On voit petit à petit, ça fait déjà 2 ans qu'on commence à établir des analyses que je vais dévoiler un petit peu plus tard.
Très bien, merci. Et puis troisième invitée, donc Linda Lemarié, qui est donc professeure en publicité donc à l'Institut d'entreprise ici à l'Université de Neuchâtel, spécialiste en marketing. Un peu plus neutre, parce que vous êtes assise au milieu peut-être. Comment est-ce que...
Ah oui, puis je pense que c'est pour ça qu'on m'avait demandé de parler en troisième aussi, parce que justement, j'ai été... je suis là et puis j'ai été invitée parce que en fin de compte je vais adopter une position assez centrale dans le débat de par mon rôle de professeur en marketing et l'analyse des consommateurs. Je vois et je suis consciente en fait de tous les bienfaits justement que peut amener les différents outils technologiques qui permettent aux consommateurs de faire par eux-mêmes des choses qui étaient effectuées auparavant par les employés en termes de rapidité, flexibilité, d'accès aussi beaucoup plus simplifié, en fin de compte, à différents types de services, en termes de réduction de prix aussi, comme on a pu voir, par exemple, pour le développement de la banque en ligne. Donc, avec des avantages qui sont indéniables du côté du consommateur, mais aussi des inconvénients, peut-être, en tout cas, peut-être pas à court terme, mais en tout cas à moyen terme, justement avec perte de relations humaines, de liens sociaux, perte de relations aussi avec le service de consommation, qui peut avoir des impacts négatifs également pour le service en lui-même, parce que justement, comment on peut créer de la fidélité avec des clients qu'on ne voit jamais, qu'on ne rencontre jamais, avec qui on n'a aucune relation. Ça pose aussi des questions justement pour l'avenir de ces services, de ces marques, en termes de relations avec leurs clients, et en termes aussi sociétal, vers quelle société on veut aller, ça pose aussi des questions, et c'est vrai que ça peut aussi amener un regard assez négatif de ce vers quoi on va à moyen terme. Donc, une position très centrale, avec, en fin de compte, assez positive à court terme, mais plus négative à moyen terme.
Une position centrale et une question centrale aussi, sur dans quelle direction, effectivement, est-ce que on souhaite que la société évolue. Ça, c'est un peu plus, si on prend un peu plus de recul par rapport à cette question. Si j'ai dit au départ que Monsieur Albrecht jouait le rôle du méchant, c'est uniquement parce que Monsieur Chlebny a essayé, a tout fait pour inviter aussi des représentants dans la branche de la distribution, de Coop et de Migros, qui ont décliné l'invitation, qui ont refusé. C'est pour ça qu'il se retrouve là peut-être aussi dans le rôle du méchant, mais en fin de compte, pas, parce que finalement, ces solutions-là doivent être imaginées, doivent être apportées, doivent être facilitées, et il faut des gens et des acteurs comme monsieur pour les introduire. Donc c'est effectivement quelque chose qui est nécessaire aussi. Maintenant, moi, j'ai envie de poser une question aux intervenants. Je ne sais pas lequel d'entre vous aura envie de répondre, ou le public aussi. N'hésitez pas aussi à participer, comme j'ai dit tout à l'heure. Finalement, nous, on le voit bien, à savoir, les consommateurs, il y en a une bonne partie qui sont ravis de ce système-là. Ils gagnent du temps. On a nous-mêmes fait des tests aussi dans les commerces, à la Coop, à la Migros, où on voit qu'en scannant soi-même ses produits, ou en remplissant son caddie et puis en passant à la caisse et en scannant soi-même ses produits finalement à la caisse, eh ben, il y a un gain de temps indéniable. Et puis on nous dit finalement que du côté de la Coop et du côté de la Migros, qu'il n'y aura pas de réduction de personnel. Voilà, donc est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on nous ment? Qu'est-ce qu'il en est?
Oui, d'ailleurs, Renaud Berger, le directeur de la Migros, je cite, il s'est porté garant qu'aucun poste serait dépourvu. Dans la vente, dans les commerces de détail, depuis 20 ans, on est dans une croissance de profit, de productivité, d'efficience qui est pressant. Et d'un autre côté, on vit ces caisses hein, des libres-services sont une étape supplémentaire à cette rationalisation du personnel. Qu'est-ce qui se passe avec cette efficience? Comment est-ce qu'on peut se porter garant que ces postes ils vont pas être que ces personnes ne vont pas être licenciées? C'est ça la question qu'on met, et malheureusement on a constaté que ces personnes qui sont mutées après elles vont avoir des autres tâches avec des autres charges, et du coup ces personnes elles vont prendre des postes déjà pour mettre un exemple. Il n'y aura pas des autres personnes qui vont les prendre en charge. On a déjà des remplacements qui sont en baisse. D'un autre côté, ces mutations, elles peuvent aussi nuire à la santé des personnes parce qu'elles sont du coup debout, personnes enceintes. Il faudrait regarder aussi au niveau de la santé, la protection de la santé. Et puis, cette diversification aussi des tâches fait que, là, j'ai un exemple concret que je pense que c'est assez intéressant. L'autre jour, j'ai parlé avec un vendeur qui a été muté. Maintenant, il fait aussi du stock. Hop, il est 10 heures, il y a les camions qui arrivent, il doit descendre, il est à la caisse au début, il doit descendre en courant parce qu'il y a les camions qui doit décharger. Et c'est la pause, s'il y a un retard, c'est la pause un problème pour après vouloir monter et ensuite en courant retourner à la caisse. Cela crée un stress. Cette diversification peut créer aussi un stress, et cette augmentation des tâches fait qu'aussi on nous donne de plus en plus d'objectifs. Et on les constate dans les permanences qu'on fait à la COP, pas à la Migros parce qu'ils ne nous laissent pas rentrer, mais à la COP, ils nous disent qu'ils remplacent de moins en moins de gens, on est de moins en moins de personnel. Du coup, ils sont en train de courir les 8 heures et demie qu'ils font par jour. Cela fait des burn-out, cela fait des stress, des plus.
Quand on écoute les représentants de ces deux entreprises, COP et Migros, dans l'article qu'on avait écrit en 2016, justement sur les temps d'attente aux caisses, on les avait fait réagir par rapport au temps de passage quand on scanne soi-même les produits. Et là, les deux entreprises nous ont dit, en tout cas, ce qui était du côté de Migros, textuellement, ils nous ont répondu, notre objectif est de réaliser 25% du chiffre d'affaires au travers du système Subito, hein, donc du côté de la Migros. Et chez COP, la réponse était claire, c'est on veut du 50-50, donc on veut la moitié des consommateurs qui utilisent le système de fais tout toi-même et l'autre moitié qui passe par des caisses traditionnelles. Donc, évolution de la société, on disait tout à l'heure, puisque les deux systèmes doivent continuer à subsister, d'après en tout cas les distributeurs. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, j'avais vu les chiffres comme quoi il y avait déjà 2/3 des Suisses qui avaient utilisé les caisses en libre service. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez répandu hein, maintenant. De toute façon, je pense que tout le monde est déjà passé, en tout cas, je ne sais pas dans cette salle, mais la plupart d'entre vous est déjà passé par les caisses en libre service, parce que justement, c'est assez simple d'utilisation. Et donc, après, oui, c'est deux systèmes qui sont amenés à vivre de manière complémentaire, parce que on sait aussi que justement, il y a peut-être des problématiques liées aux caisses de libre service. Vous n'allez pas aller aux caisses en libre service si vous avez un chariot rempli de denrées alimentaires. Ça va être quasiment impossible pour faire vous-même. En plus, de toute façon, elles ne sont pas prévues pour ça. Il n'y a pas la place de. Donc obligatoirement, c'est des systèmes qui vont agir ensemble. Et aussi, il faut voir au niveau des supermarchés en eux-mêmes. Comme je disais d'ailleurs dans mon introduction, ils n'ont aucun intérêt à faire disparaître complètement les caissières. C'est ça qui crée et à les mettre en burn-out ou à les énerver d'ailleurs aussi, parce que justement c'est ça qui crée aussi l'attachement au supermarché. C'est cette présence humaine et l'accompagnement qui peut y avoir derrière. En fin de compte, le lien avec le supermarché, avec le service en lui-même, la marque Coop ou la marque Migros, elle est créée par cette relation effectuée avec les employés. Donc, ils n'ont aucun intérêt à faire disparaître complètement les employés.
Mais est-ce que, pour jouer l'avocat du diable, si la caissière, elle n'a pas le temps de parler, elle n'a pas le temps d'avoir cette relation non plus avec les clients, parce qu'elle doit typer les produits. Par contre, si elle est affectée à d'autres tâches, notamment au conseil, à l'accompagnement dans les rayons, au conseil vers les caisses où le consommateur se débrouille seul, finalement, est-ce que ce n'est pas mieux pour ça, justement, pour cette relation, pour cet enrichissement, cette relation entre le client et le collaborateur?
C'est ce vers quoi, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, parce qu'il y a toujours des projections sur justement l'utilisation de ces différents systèmes au sein des services. Et normalement, les projections, elles sont censées, elles orientent vers là. C'est-à-dire à faire en sorte que les employés présents soient détachés de toutes ces tâches, en fin de compte, simples à exécuter, qui peuvent être exécutées directement par les consommateurs, au profit d'un rôle qui est beaucoup plus de conseil, d'accompagnement, donc un rôle relationnel qu'ils avaient peut-être justement moins avant, parce qu'ils avaient moins le temps ou la capacité de le faire.
Donc on va reprendre ce rôle, justement. Moi, ce qui m'intéresse aussi d'entendre de votre part, c'est ce système, si on reste vraiment dans la distribution, parce qu'il s'applique à d'autres domaines, hein, mais si on reste vraiment dans le domaine de la distribution, ces systèmes, est-ce qu'ils vous paraissent aujourd'hui aboutis? Ou est-ce que c'est encore des systèmes qui peuvent être améliorés? On parle de plus en plus maintenant de payer directement avec son téléphone portable, c'est déjà possible. Hein. On parle avec des systèmes de payer directement avec simplement le regard, pas uniquement l'empreinte. Donc quelle évolution vous voyez justement dans ces systèmes-là, dans la grande distribution?
Alors j'aimerais juste revenir sur un point, enfin quelque part sur ces changements. Il y a 5 ans en arrière, quand les premiers bancomètres ont été introduits, il y a eu le même débat. Ah oui, mais ça va changer la relation. Les clients ne vont peut-être plus passer au guichet de la banque, etc. Et après, il y a un certain nombre de changements qui sont opérés. Puis on voit maintenant, les banques ont modifié aussi leur concept de guichet en disant, finalement, plutôt que d'avoir le dialogue à travers une vitre blindée, on a des banques ouvertes. Alors, il y a peut-être des bancomates d'un côté pour ceux qui veulent encore prendre de l'argent. Et puis sinon, c'est la discussion avec le conseiller à une table qui est peut-être plus conviviale aussi à la fin qu'à travers un guichet blindé. Maintenant, l'évolution de la grande distribution, je ne suis pas vraiment la bonne personne pour vous en parler. Au niveau des systèmes de paiement, oui, il y a forcément des évolutions qui se font. Enfin, songez, il y a encore peut-être 20 ans en arrière, vous regardiez combien d'argent vous aviez dans votre porte-monnaie avant d'aller dans un commerce. Aujourd'hui, en principe, vous ne regardez plus. Il y a soit une carte de crédit, soit une carte de débit ou un autre moyen, quoi. Après, finalement, ces changements, qu'est-ce que ça apporte? Ayant utilisé aussi ce système dans la grande distribution de self-scanning, mais ça apporte aussi quelque part une transparence. On sait à tout moment quel est le montant des achats, ce qu'on n'avait pas avant. On arrive à la caisse, la caissière typait les achats. Puis, ah oui, ça fait à peu près ce montant-là. On a peut-être une vague idée, mais là, on a vraiment au centime près combien on a dans le chariot. Puis après, quand on passe à la sortie à la caisse, plutôt que de tout déballer le chariot sur le tapis puis de le remballer après, on passe, on paye, etc. Donc voilà, il y a des avantages. Maintenant, c'est possible que ça ne convienne pas à tout le monde. Et puis chacun fera le choix par rapport à ses affinités. Mais je crois que ces changements, il faut les faire aussi, quoi. Parce que quelque part, je pense qu'il y a aussi une demande, une attente de certains clients à aller dans cette direction-là, quoi.
Je crois que Mme Delpino voulait réagir.
Alors, j'aimerais bien que ça soit juste de consulter et puis que les travailleurs elles puissent s'épanouir en aidant les clients, mais c'est pas le cas, c'est plutôt des postes. Déjà, 2 caisses libres font la place d'une caisse, hein, avec une caissière. Du coup, on est déjà avec une personne de moins. En plus, ces postes, ils sont pour la surveillance ou les contrôles. Déjà, les caissières, elles sont pas toutes habituées, ou elles sont timides, ou elles n'ont pas envie de devoir être un policier. Ça met en aussi une confusion avec les Securitas qui peut-être est dans le centre commercial. Et d'un autre côté, ils n'ont pas le temps de conseiller, malheureusement. Ils ont le temps de conseiller quand ils sont avec les scanners, mais sinon, ce n'est pas dans les rayons qu'ils vont consulter parce qu'ils sont en train de faire des autres choses. Et justement, qu'est-ce que j'allais dire ? Je me rappelle plus, mais c'est pas grave. C'est surtout ça, c'est que ah oui, c'est cette valeur. La Migros et la Coop, elles disent qu'ils ont une formation spécialisée. Cette formation, du coup, si c'est un nouveau poste, de nouvelles charges, ça devrait être aussi rémunéré à la hausse. C'est pas le cas.
Effectivement. Donc, par contre, vous parliez de lien social tout à l'heure. Donc, ce lien social, non, il n'existe pas. Que ce soit à la caisse ou en dehors, il n'existe pas, ou très, très peu en fonction des heures de la journée. Que ce soit dans la grande distribution, mais aussi dans les factures qu'on reçoit de plus en plus. De plus en plus, maintenant, les bulletins de versement disparaissent. Le carnet jaune, évidemment, a totalement disparu. Les bulletins de versement aussi. De plus en plus, les factures, dès qu'on sort du domaine de la distribution, qu'on va dans le domaine bancaire ou dans toute autre transaction, les factures, maintenant, sont de plus en plus envoyées par mail, ou il faut soi-même aller consulter dans le domaine de l'assurance, par exemple, sa boîte mail pour aller voir ce qu'on doit ou pour régler le montant de sa carte de crédit, etc. Donc, ça, c'est aussi une évolution. Là, je pense que c'est un domaine que vous connaissez particulièrement bien, où les consommateurs réagissent à juste titre, j'estime. Une fois de plus, vous n'allez pas être la bonne personne pour répondre à ça, je pense, mais finalement, ces prestations-là sont faites par le consommateur. Donc, c'est une obligation pour le consommateur d'être proactif, d'aller se connecter sur son compte bancaire, dans sa boîte mail de l'assurance, etc. Au final, pour payer le même montant que ce qu'il payait jusqu'alors. Alors que si la personne souhaite, parce que la plupart des prestataires le proposent, la personne souhaite quand même conserver son bulletin de versement, elle va devoir s'acquitter d'une taxe d'1,50 francs ou de 3 francs supplémentaires. Donc ma question à vous trois, pourquoi est-ce que, ou plutôt à vous, Monsieur Albrecht, pourquoi est-ce que dans une situation où on demande au consommateur de faire, ce consommateur ne bénéficie pas au moins d'un rabais ou d'une baisse de prix, alors qu'on va taxer les autres personnes? Est-ce que c'est vraiment juste?
Alors, je vais vous répondre de la manière suivante. Alors, déjà, je suis entièrement d'accord avec vous que vous dites qu'il faut aller se loguer dans sa caisse maladie, etc. C'est pas du tout confortable, c'est en tout cas pas le propos qu'on tient avec l'e-facture. L'idée, c'est vraiment d'aller sur l'e-banking, là où on fait ses paiements, de recevoir ses factures directement là-dessus de tous ses fournisseurs. Alors, peut-être pas tous aujourd'hui, mais une bonne majorité des factures qu'on peut recevoir régulièrement. Je pense sur Neuchâtel, vous pouvez payer les impôts de cette manière-là, les factures du service des automobiles, enfin, etc. Il y a quand même plus d'un millier d'entreprises qui proposent ça. Après, vous les avez directement dans l'e-banking, vous pouvez les consulter, vous pouvez les vérifier, et puis avec un seul clic, libérer le paiement, quoi, ou refuser si ça ne vous convient pas. Alors ça c'est le propos qu'on tient avec l'e-facture, donc quelque part aussi une simplification pour le client. Maintenant, pour répondre à votre question... du fait qu'il y a il y a plusieurs possibilités, en fait, pour une société d'émettre des factures, de les envoyer sous forme papier, peut-être de les envoyer sous forme électronique, etc. Les coûts derrière de processus sont différents. Et puis après, ils sont encore différents peut-être en fonction du choix que le client fait pour payer. S'il va payer au guichet de la poste, il y aura des coûts qui seront imputés à l'entreprise pour des coûts d'encaissement, quoi, qui sont certainement justifiés puisqu'il y a une personne qui va faire le travail de cet encaissement, quoi. Après, pour la question peut se poser pour l'entreprise, effectivement, de dire, en fonction du choix du client, il y a des coûts supplémentaires qui apparaissent. Est-ce que je vais mutualiser ça pour tous les clients? Est-ce que je vais plutôt faire bénéficier un rabais à un client qui choisit le canal e-facture? Ou bien est-ce que je vais plutôt facturer le supplément que me coûte un client qui choisit une autre méthode de paiement? Je dirais ça c'est chaque entreprise qui va déterminer si c'est plutôt une mesure incitative ou... on va dire coercitif, quoi. Nous, on peut pas tellement intervenir là-dedans. Moi, je constate qu'il y a eu au départ plutôt des mesures incitatives de la part des entreprises en disant, si vous vous inscrivez, on vous offre quelque chose. Et puis après, ben, à un moment donné, ils ont aussi mis en place des mesures peut-être plus coercitives, si on veut, quoi. Mais après, je crois que c'est le client qui doit choisir. Si ce fournisseur est vraiment une politique trop agressive, ça peut être un critère quand on cherche à changer de caisse maladie ou quoi que ce soit, quoi.
On sait que dans la quasi-totalité des entreprises, la charge la plus lourde, c'est le salaire, hein, ce sont les salaires. Donc là, typiquement, dans ce système, on se passe de l'humain. Donc, il y a une charge salariale qui est réduite. Pourtant, elle n'est absolument pas répercutée sur le client final. Ce gain n'est pas répercuté sur le client final. Donc, à qui profite le crime? J'ai envie de poser la question. Qui répond à cette question?
Vous êtes obligé d'être lié à Internet. Internet, qui c'est qui paye l'abonnement ou la connexion Internet? Qui c'est qui paye l'électricité? C'est le consommateur.
Bien sûr.
Donc, c'est pas l'entreprise.
Bien sûr.
Donc, on pourrait nous offrir carrément un mois ou bien un abonnement réduit de...
Ou en tout cas une baisse de prix pour les personnes qui font elles-mêmes le travail au final. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Albrecht? J'ai dit qu'il y avait le rôle du méchant.
Une fois de plus, je pense que c'est le libre choix de l'entreprise de décider si elle veut, du moment qu'elle arrive à faire des économies sur certains processus. Et puis qu'il y a des coûts supplémentaires ou en tout cas existants sur d'autres processus. Est-ce qu'on va baisser le prix de nos prestations, enfin, ou optimiser le prix de nos prestations, ou bien est-ce qu'on va faire bénéficier ça à cette population, ou bien est-ce que, ouais, enfin, il y a plusieurs modèles, et chaque entreprise va certainement bien réfléchir quel est le choix le plus judicieux avec les conséquences que ça peut avoir derrière, quoi. Si c'est trop négatif, je pense qu'elles reviendront en arrière aussi, quoi.
On ne sait pas. Quelqu'un d'autre a envie d'intervenir sur cette question? Monsieur.
Juste le micro parce que c'est enregistré, excusez-moi.
J'aimerais savoir, d'un point de vue purement économique, j'ai de la peine à imaginer que, je prends l'exemple de Coop et Migros pour ne pas faire de jaloux, le fait d'introduire et d'insister sur le système self-scanning représente une diminution des frais généraux. Parce qu'évidemment, les systèmes de scanning, computer, les programmes, tout ça, il faut les payer aussi. Et puis, apparemment, soi-disant, il n'y a pas de diminution du personnel. Il y a peut-être 2-3 qualifications qui changent. Il y a encore la question des vols, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui passent entre les gouttes. Hein. En plus, c'est, comme vous le mentionnez, c'est pas... certainement très excitant pour une ancienne caissière de faire la police. J'aimerais bien savoir s'il y a des études qui ont été faites vraiment de façon sérieuse là-dessus.
Par rapport au... En fait, au niveau de vol, j'ai eu hier un autre exemple d'un travailleur de la COP qui a vu que son établissement, qui a une certaine somme d'argent qui est établie pour la formation de ses employés et puis pour investissement, etc., à cause de l'introduction de ces passes à bénéfices, je crois que c'est à la COP, il y a eu un nombre énorme de vols et effectivement, bah, c'est les travailleurs qui se sont vus au détriment de cet argent qu'ils n'ont pas pu... leurs gérants, tout de suite, ils ont dit on ne pourra pas vous donner accès à ces formations parce qu'on a eu trop de vols et on n'a pas d'argent. Après, au niveau de cette adaptation de la technologie, je voulais aussi dire une chose... par rapport au Wi-Fi, qui est bon et qui est mauvais. Un autre exemple qui est incroyable, la plupart des vendeuses avec qui nous on travaille, l'entrepôt, il est au sous-sol. Du coup, le Wi-Fi, il n'y arrive pas. Et ils doivent monter la marchandise pour pouvoir rentrer les codes et puis après descendre. Et ça, c'est tous les jours. Imaginez-vous les stress que ça suppose au personnel de... Alors là, on demande évidemment une adaptation de cette technologie qui, on croit qu'elles sont partout introduites. Mais
je peux vous rassurer, de plus en plus, le Wi-Fi est présent dans les commerces parce que justement, les commerces ont compris que les gens devaient pouvoir comparer Donc, ils se chargent eux-mêmes, Copemicro, de développer leur propre comparateur pour montrer que, voilà. Donc, ça, c'est un autre sujet. Juste par rapport au vol, donc là, il y a aussi, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'en Angleterre, où le système du self-scanning, etc., a commencé un tout petit peu avant la Suisse, en tout cas, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années en arrière, 2-3 ans en arrière, qui démontrait que le vol, qui a toujours existé, puis qui existera toujours, hein, quel que soit le système, je crois que l'astuce, l'humain, trouvera toujours la faille, mais que ce système-là de self-scanning développait davantage ou suscitait davantage de vols et de tricheries que les systèmes traditionnels. Donc ça, c'est aussi un constat qui fait que certains commerces, pas tous, hein, mais quelques commerces en Angleterre sont maintenant en train de se demander si on ne va pas faire machine arrière ou réduire ce système-là pour éviter le vol. Donc on voit que aussi du côté des distributeurs, comme vous le disiez, hein, si ça convient et si ça convient pas, il y a aussi un questionnement qui se fait. Alors pas du tout pour les mêmes raisons, hein, mais il y a aussi un questionnement qui se fait.
Mais je crois avoir vu hein, que la Coop et la Migros justement avaient été questionnés là-dessus dans les médias et eux ont dit que de toute façon ils n'avaient pas vu d'augmentation des vols.
Alors ça c'est leur position.
Moi c'est ce que j'ai vu.
Effectivement, parce que vol il y a toujours, donc pas plus ni moins, mais c'est intéressant de voir que c'est pas forcément le cas partout, donc on verra comment tout ça va évoluer en Suisse. C'est des systèmes en fait tout simples, hein, quand vous scannez vous-même, vous prenez deux fois le produit, vous en scannez qu'un. Il suffirait d'appuyer sur la touche plus un pour montrer qu'il y en a deux, mais une fois sur deux, le consommateur oublie, volontairement ou pas, ça peut arriver aussi hein, d'oublier, ça c'est clair, mais apparemment les vols seraient quand même plus importants avec ces systèmes-là que dans le système plus traditionnel. Quoi.
Bon, après je pense qu'il y a quand même des données culturelles aussi, en Suisse on n'est pas non plus connu énormément pour...
Aussi, l'honnêteté.
C'est vrai, en plus les gens sont plutôt honnêtes, donc je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer l'Angleterre avec la Suisse à ce niveau-là. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, les données officielles font qu'il n'y a pas d'augmentation des vols en Suisse du fait du self-scanning.
Si on en croit les distributeurs. Il y avait une autre réaction, je crois, tout à l'heure. Oui, alors la question économique, je crois que... qui veut répondre sur la question économique, le mari
c'est,
peut-être.
C'était vraiment s'il y a déjà une augmentation des profits par rapport aux caisses libres. C'était ça votre question. Non, on n'a pas encore. On a, en tout cas, la COP et la Migros, ils ne sont pas donnés. Mais c'est là pour nous, pour rebondir aussi avec cette histoire des robots, de ces profits. Si les consommateurs doivent avoir des prix plus attractifs, nous, en tout cas, on voit que ce n'est pas les consommateurs, ce n'est pas les travailleurs non plus. Et que pour finir, c'est un peu les actionnaires qui reçoivent ces bénéfices. Pour un autre exemple, on passe dans l'industrie un peu, mais il n'y a pas longtemps, la Swatch Group a annoncé un 11 milliards de dividendes pour les actionnaires quand ça fait 3 ans qu'il n'augmente pas les salaires des employés. Alors, la position un peu du syndicat par rapport à ça, c'est on veut des garanties, des transparences. On parlait tout à l'heure aussi de transparence au niveau du consommateur, mais pas par rapport aux employés, au niveau de cette fluctuation et cette organisation, et aussi d'où va ces profits. On ne voit pas que les profits est versé vers les employés, sinon plutôt le contraire. On voit qu'ils sont avec l'e-commerce, il y a de plus en plus de licenciements. Ils sont les conditions de travail sont péjorées chaque fois plus. Maintenant, on a une attaque de la loi sur le travail pour flexibiliser encore les temps de travail. On n'a pas des garanties encore. Les entreprises, elles donnent pas du tout des garanties par rapport à une amélioration. Et c'est là qu'on, les syndicats va sur la demande, la numérisation sociale, on va dire. Numérisation 4.0, numérisation sociale avec des salaires équitables, meilleures conditions et surtout une formation. Un accès à la formation de nouvelles technologies puis accès à une formation continue qui soit rétribuée par les propres entreprises.
Mais le fait qu'une caissière ne soit plus assise derrière sa caisse à typer comme un robot, au final, est-ce que ce n'est pas une amélioration des conditions de travail aussi, ça, cette évolution de la société ?
demander ça à une caissière.
Est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas, parce qu'on voit ces personnes qui sont tantôt à la caisse, tantôt, comme on disait tout à l'heure, à faire le Securitas pour vérifier que les personnes scannent bien tous les produits. Mais est-ce qu'à terme, est-ce qu'on pourrait imaginer, ou est-ce qu'on est trop idéaliste, que ces personnes-là aient des emplois qui soient plus valorisants?
Si c'était le cas, oui, mais on constate que malheureusement, ils sont pas un salaire qui est augmenté pour avoir des tâches différentes. Effectivement, les enseignes Orange disent qu'elles vont être revalorisées, vendeuses et vendeurs, mais c'est pas le cas encore. Et on voit plutôt les contraires, qu'elles sont stressées.
Donc, ce sont davantage de stress aussi pour le personnel, qui est moins ou moins nombreux d'ailleurs aussi. Hein.
Oui, effectivement. Voilà. C'est le fait d'avoir moins de personnel qui fait que chaque personne a plus d'objectifs et de tâches. Et effectivement, ça peut être monotone. C'est comme aussi les nettoyages. On voudrait que ça soit les robots qui fassent les nettoyages parce qu'on croit que c'est des tâches qui sont pénibles. Dans l'industrie avec des tâches répétitives, mais il y a des personnes qui veulent faire ce travail encore et qu'il faut les valoriser. Et si jamais, si on donne ces formations, parce que c'est pas encore le cas, c'est des formations très courtes pour les caissières spécifiquement, si on donne ces formations, alors il faut après les revaloriser au niveau salarial.
Est-ce que vous, dans la salle, vous avez fait des expériences positives ou négatives avec ces systèmes-là? Comment est-ce que quelqu'un dans la salle trouve que c'est un bon système, finalement, de faire ses courses en scannant soi-même ses produits, en les mettant directement dans son sac, pas besoin de les sortir une deuxième fois? Ça a du bon aussi, mais quel est votre avis sur la question? Personne. Il y a une remarque. Au fond, je crois que vous avez... Voilà, pour varier les intervenants...
J'arrive avec
vous. Je vous passe la parole après, alors, volontiers. Peut-être juste à réagir, monsieur.
La question de la taxe sur les factures papier. La taxe sur les factures papier, est-ce qu'il y a une législation pour interdire ces taxes d'un franc 80, 2 francs, parce qu'elles se multiplient, ou bien est-ce que les entreprises sont libres de faire ce qu'elles veulent? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux diminuer à ceux qui payent par Internet plutôt que taxer ceux qui ont encore des factures papier?
C'est ce qu'on appelle la taxe punitive. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Albrecht?
Alors, je vais volontiers vous répondre. Alors, dans la plupart des branches, effectivement, c'est l'entreprise qui fait le choix de mettre éventuellement une taxe punitive ou d'offrir un rabais. Hein. Les deux cas existent maintenant. C'est vrai qu'actuellement, moi, ce que je constate, en fait, une fois de plus, on est là en tant qu'intermédiaire, mais on peut constater qu'effectivement, il y a plutôt la tendance à mettre un supplément pour la facture papier plutôt qu'un rabais pour la facture électronique. Ça, c'est un constat. Après, chaque entreprise est libre de le faire. Il y a juste certaines branches où c'est régulé, comme, sauf erreur, les caisses maladies, pour ce qui est des primes de la mal, elles ne peuvent pas opérer de rabais ou de suppléments comme ça. Mais sinon, c'est clair qu'il n'y a pas de législation. Ça, c'est
effectivement le seul secteur qui est régulé. Dans la mal, il n'y a pas de rabais possible, c'est tout. Ailleurs, il n'y a pas aucune règle. Non, pas à ma connaissance en tout cas. Non. C'est quelque chose qui est critiqué, mais en tout cas au niveau légal, il n'y a pas du tout aucune discussion devant dans ce sens au Parlement actuellement en tout cas. Voilà. Il y avait le témoignage de monsieur.
Voilà, oui, je voulais dire, si on prend le self-scanning au supermarché, moi personnellement, je trouve ça assez agréable, c'est un gain de temps et... je trouve pas que la relation avec le personnel est moins bonne qu'elle était avant. Donc ça, moi, je considère comme client, comme positif. Après, je connais pas tout ce qui se passe dans les rayons ou derrière les rayons. Par contre, où j'ai un avis un peu plus partagé, c'est au niveau des paiements de factures. À mon avis, c'est clairement, on a repoussé le travail chez le client sans le rémunérer. Alors ça, c'est assez flagrant. Ils n'ont plus besoin d'imprimer un papier, un bulletin de versement. Mais derrière, on paye toujours la même somme. Et les frais bancaires, d'une manière générale, n'ont pas diminué non plus.
Je vais peut-être réagir, alors, si vous permettez. Je comprends votre position. Moi, je fais le constat différent. À l'époque, vous receviez vos factures papier à la maison, vous attendiez à la fin du mois, vous preniez votre pile de factures, vous alliez au guichet de la poste, vous alliez payer ces factures. Ça vous prenait un certain temps, vous étiez lié aux horaires de la poste, etc. Après, il y a une première révolution, c'était le e-banking. Alors, c'est vrai que vous receviez toujours les factures papier à la maison et vous deviez les saisir dans l'e-banking. Ça, c'était la contrainte, peut-être. Mais l'avantage que vous aviez, c'est que vous n'aviez plus besoin d'aller faire l'accueil au guichet de la poste. Vous étiez plus tributaire des horaires de la poste. Et puis, en plus, si vous aviez des factures qui avaient des échéances différentes, vous pouviez indiquer les échéances directement, enfin, l'échéance précise de la facture. Alors, effectivement, comme on disait, c'est un changement. Il y a des avantages et puis il y a des inconvénients. Il y a des personnes qui ont dit, ben voilà, les avantages, pour moi, sont supérieurs, même s'il faut que je dois saisir moi-même les paiements par rapport aux inconvénients. Et puis avec ce qu'on amène avec l'e-facture, ben finalement, c'est une étape encore supplémentaire, c'est que les factures n'arrivent plus dans la boîte aux lettres, elles arrivent directement dans l'e-banking, et puis vous cochez si vous voulez souhaiter les payer ou pas. Maintenant, on est bien conscient que ça va pas s'adresser à tout le monde. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas Internet, quoique si on regarde les dernières statistiques, on dit qu'il y a plus de 90% des ménages qui ont un accès à Internet. Alors, peut-être tout le monde n'a pas un accès e-banking, mais j'entends qu'il y a une bonne couverture, quoi. Après, c'est une évolution qui se fait ben, plus ou moins gentiment. Et puis, ben, il y a toujours encore des gens, effectivement, qui vont payer au guichet de la poste, qui souhaitent recevoir une facture papier.
Je nuancerais juste ce que vous venez de dire par rapport à 90% de la population qui a un accès à Internet. Ça, c'est des statistiques qui sont justes, mais qui sont totalement faussées quand même, parce qu'on voit très, très bien dans la consultation des médias, on le constate aussi, hein, dans les statistiques de consultation des médias, 90%, voire plus de la population est connectée, mais qui dans la famille est connectée à Internet? C'est souvent les jeunes et les enfants, et c'est pas eux qui payent les factures. À moins de lui donner les accès, etc. Comment est-ce que...
Alors, pour la question précise de déléguer ça à quelqu'un...
On n'a pas nos enfants qui habitent toujours dans la même région.
Hein. Alors, juste... Oui, vous avez raison. Alors, à partir du moment où vous déléguez la compétence à vos enfants de s'occuper de ça, il n'y a pas de raison que votre enfant puisse pas accéder au compte internet, au compte e-banking de son parent, pour autant qu'il y ait une délégation qui a été faite. Et puis, ben, si en plus il habite pas dans la même région, c'est peut-être encore plus pratique d'avoir directement la facture directement sur l'e-banking plutôt que d'aller la chercher dans la boîte aux lettres, quoi. On m'a fait part aussi d'un retraité qui est peut-être loin à l'étranger. Ben, plutôt que d'aller relever sa boîte aux lettres ou de faire relever sa boîte aux lettres avec les factures, ben, depuis l'étranger, il peut se connecter à son e-banking, il voit les factures, il les libère sans avoir besoin d'être à la maison. Alors, une fois de plus, il y a des avantages, il y a peut-être des
inconvénients. Il n'aura pas accès uniquement au compte courant duquel vont être faites les factures, mais à l'ensemble des comptes, à éventuellement un crédit hypothécaire, à éventuellement un troisième pilier. Donc, il y aura beaucoup plus d'informations qui risquent d'être divulguées aux parents, à l'enfant qui aide, que ça, si simplement il y a une procuration sur un compte. Donc là, est-ce qu'il y a des garde-fous qui sont prévus, par exemple, pour donner l'accès partiel ou des...
Alors là, on relève clairement, pas de la prestation e-facture, mais l'accès e-banking, c'est clairement la responsabilité de la banque, respectivement du titulaire du compte, de savoir quel type d'accès il veut donner. Maintenant, je pense que chaque banque peut proposer des accès différenciés à certains comptes et pas à d'autres, quoi. On peut certainement maintenant dire, voilà... Il y a un accès à ce compte-là pour le trafic des paiements, mais il n'y a pas d'accès à d'autres comptes qui sont peut-être un compte d'épargne ou je sais quoi.
Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je ne sais pas, Madame Lemarié, quel est votre point de vue par rapport à ça, donc à l'accès aux comptes? Oui, c'est plus simple, effectivement, mais on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas, les banques ne proposent pas d'accès limité à une partie du compte. Donc c'est la personne qui va donner ses accès et l'ensemble de la relation bancaire sera vu par la personne, la tierce personne.
Je réponds quand même. Je suis pas d'accord avec vous. En fait, alors après ça dépend de chaque établissement bancaire, hein, mais en règle générale, vous pouvez avoir plusieurs comptes dans une banque et puis dire voilà, ben pour ce compte-là, je veux un accès e-banking et je ne le veux pas pour ces comptes-là, quoi. Ça c'est possible, quoi. Enfin, je prononce de manière générale, je pense qu'il faudrait voir avec chaque établissement financier dans le détail, mais l'accès e-banking, vous pouvez le limiter à un compte, je ne sais pas, salaire ou je ne sais pas quoi, et puis pas avoir accès avec l'e-banking pour un compte d'épargne ou comme ça.
Ouais, c'est intéressant, ça veut dire que le consommateur doit prendre la peine de le faire avant de tomber malade, pour rebondir sur la question de madame, de bien vérifier à séparer l'accès à ces différents comptes et pas avoir un accès pour l'ensemble de la relation. Donc une fois de plus, la responsabilité est portée sur l'utilisateur, bon, sur le consommateur.
À partir du moment où il y a une procuration, la responsabilité est celle de l'utilisateur. C'est juste, oui, voilà. Vous avez raison.
Non, moi je voulais juste savoir si vous avez toujours la connexion Wi-Fi, parce que moi c'est pas le cachet, moi toujours.
Toujours la quoi ?
J'ai
pas
connexion.
La connexion au Wi-Fi. Ah ben, ça c'est un autre problème, mais effectivement.
Alors, si je parle pour moi, oui. Mais ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Il n'y a pas toujours eu le cas, mais ça s'est beaucoup amélioré quand même, oui.
Il y a une réaction juste derrière, je crois.
Il y a une question depuis longtemps, là-bas.
Juste là, comme ça, c'est plus simple avec le micro, puis après, madame.
J'aimerais peut-être juste réagir par rapport aux e-factures. Je travaille dans un service de l'État où on fournit cette prestation. Et on a parlé de beaucoup de chiffres, de 90% des personnes qui sont connectées à un ordinateur. En termes de chiffres, notre service envoie en début d'année 90 000 factures. Et cette année, on a envoyé à peu près 7 000 e-factures, de ces 90 000 factures. Donc, c'est longtemps pas tout le monde qui est sur l'e-facture. C'est un service qui est à disposition, qui peut être utilisé, mais il n'y a aucune obligation. C'est au bon vouloir de chacun de s'organiser et de regarder aussi. Ça peut aussi rendre service à beaucoup de je vois, il y a pas mal de jeunes personnes aussi qui sont en études, qui vont peut-être aller un jour à Londres ou bien à New York ou que sais-je. Mais c'est aussi sympathique de pouvoir continuer de consulter ces factures, de continuer d'être en lien aussi avec la vie administrative sans perdre pied et avec toutes les conséquences que ça peut aussi apporter. Au niveau des frais, chacun est libre, les prestataires sont libres d'apporter des frais ou pas. Mais il est clair que la e-facture est bien moins chère que la facture papier. Ça, c'est très clair. Après, ben, ça permet aussi d'avoir directement les paiements qui sont pré-paramétrés. Après, vous avez aussi vos propres paramètres sur votre compte en ligne. Vous pouvez vous arranger, vous voulez le paiement avant le week-end ou jour férié, ou bien après le week-end, le jour férié. Vous pouvez changer ces données, vous pouvez changer le montant, vous pouvez refuser. Il y a un certain nombre de facilités qui sont aussi disponibles. Il ne faut pas non plus voir tout trop négatif. Ça apporte aussi des choses positives, libre à chacun de les utiliser ou pas.
Madame Le Marié.
Oui, mais je trouve ça bien, mais justement, votre intervention, parce que ça replace un petit peu le débat, parce que on a toujours tendance, en fait, à beaucoup plus, de toute façon, le négatif l'emporte toujours sur le positif. Donc, les plaintes que vous avez reçues, c'est sûr que si on n'est pas content, on aura tendance à se plaindre. Par contre, si on est content, on n'aura pas tendance à le dire. Donc, on l'entend beaucoup moins, ça c'est sûr. Et en fin de compte, ce que l'on observe, en tout cas, c'est que de toute façon, toutes ces évolutions-là, et puis justement, cette multiplication du fait tout toi-même, du e-banking, des e-factures, etc., a été créé par et pour le consommateur. C'est-à-dire qu'à la base de tout ça, en fin de compte, c'était une volonté des consommateurs d'avoir beaucoup plus de facilité d'accès, d'avoir beaucoup plus de flexibilité, d'avoir aussi justement plus de liberté dans la manière dont ils vont pouvoir gérer leur système de paiement, etc. Donc c'était en fin de compte une volonté des consommateurs à laquelle ont répondu les services. C'est pas les services qui ont initié ça, c'est les consommateurs qui étaient vers cette demande de flexibilisation, de rapidité, de simplicité. Donc les évolutions que l'on observe aujourd'hui, elles ont été créées par vous, en fin de compte. Donc c'est ça, c'est aussi de ça qu'il faut se rendre compte.
Tout à fait d'accord avec vous, mais c'est effectivement un serpent qui se mord la queue. Pour faire de nouveau un autre parallèle, fruits et légumes des saisons, rien à voir avec notre sujet, mais on dit toujours que si on peut trouver actuellement des raisins au mois de janvier, au mois de février, c'est parce que le consommateur l'a demandé. Oui, bien sûr, les consommateurs souhaitent avoir une plus grande liberté, mais en attendant, s'il n'y avait pas de distributeur, s'il n'y avait pas un système pour amener ces fruits et légumes aux consommateurs hors saison, la demande toute seule n'aurait pas pu déboucher sur l'offre. Et là, on est un peu dans cette même question. Il y a des facilitateurs il y a une technologie qui s'est mise en place et des systèmes qui ont été proposés aux consommateurs. Le consommateur a dit « Ok, j'aime, ok, ça, c'est pratique pour moi, je gagne du temps ». On est entièrement d'accord, il y a du bon, comme je l'ai dit au tout début, hein, il y a du bon et du moins bon, il y a du bon, mais c'est très facile, je trouve, de reporter systématiquement l'explication, pas la faute, mais l'explication, oh, c'est le consommateur qui le souhaite, qui l'a demandé, qui le veut, on le responsabilise déjà qu'il n'a pas de rabais, et en plus on le responsabilise. Comment est-ce que vous, quel regard vous portez là-dessus, Madame Lemarié ?
Déjà, mon regard, c'est que c'est important de le responsabiliser, donc c'est important de le dire quand même, parce que justement, du coup, je trouve que c'est pas assez dit et que c'est souvent pas assez compris, justement, parce que on agit chacun de manière individuelle sans se rendre compte en fait de l'impact après au niveau collectif que l'on a. Donc c'est important de le dire et de le répéter. Après, je trouve ça un petit peu compliqué aussi de demander à des organismes qui sont là pour faire du profit de ne pas répondre de manière consciente à une volonté des consommateurs, parce que peut-être qu'il pourrait y avoir un impact au niveau sociétal. Je suis pas certaine que ce soit en fin de compte le rôle que ces organisations ont à jouer. C'est plutôt peut-être un rôle gouvernemental, étatique, mais je ne vois pas comment on peut demander à des organismes qui sont là pour faire du profit d'adopter justement ces positions-là en disant non, consciemment, je décide de ne pas répondre à une demande du consommateur.
Donc là, on rentre dans la réglementation, dans la régulation. Oui. Madame.
On n'a pas dit que c'est super écolo quand même, les banking. Hein. J'aime bien, oui, bah, on dépense beaucoup moins de papiers dans les factures, c'est vraiment génial.
Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui impriment, c'est quand même à la mêlée. Parenthèse.
Ouais, faut encore apprendre à pas imprimer, voilà, on est en pleine transition. Voilà. Ça demande aussi une sacrée organisation. On l'a regardé avant. Il faut que les parents, ils soient. C'est une question générationnelle. Moi, je vois mon père qui a encore des problèmes avec la télé connectée. On doit les aider. Puis nous aussi, la société, on est de plus en plus pressés. On n'a jamais du temps. Et ça, il faut tenir compte, non? On se fâche avec les parents. Ah non, mais tu comprends rien. C'est facile à dire. Oui, je mets mon fils à New York et puis il m'aide avec l'e-banking. Je n'ai pas entendu. C'est des tâches elles deviennent privées. Alors, ces profits, peut-être les banques, elles devraient faire un petit peu, ces entités devraient faire plus de formation pour que les personnes, ça soit plus accessible. Ça, on l'a pas fait, on l'a pas vu. Il y avait les films de William Blake, je crois, de Ken Loach, qui parlait de la problématique en Angleterre par rapport à aux personnes âgées qui allaient s'inscrire au chômage. Et vraiment, c'était vraiment les serpents qui se mordent la queue parce qu'ils n'arrivaient pas, ils n'avaient pas des connexions, ils connaissaient pas du tout comment faire. Nous, les syndicats, on aide beaucoup à faire des CV ou à vraiment à se former sur ça. Peut-être ça, c'est le rôle du gouvernement de donner accès, ou les entreprises, avec les entreprises plutôt, non, de donner accès à cette formation.
Et d'encadrer davantage cette évolution. Et
oui, effectivement.
Ouais. Ouais. Réagir sur un point. Là. Je connais certaines banques qui font de la formation sur leur portail e-banking, qui proposent ça à des seniors. Il y a aussi des opérateurs télécoms qui proposent des formations sur Internet. Après, une fois de plus, c'est la responsabilité tout à chacun. On est tous des consom-acteurs, peut-être, si on va poser ce mot-là une fois, où on prend ses responsabilités en main, puis on se dit, tiens, pourquoi pas essayer ça, quoi. Enfin,
Madame.
Non, c'était pour répondre à la question tout à l'heure par rapport à est-ce qu'il y a des gens qui sont contents de ces systèmes de self-scanning ou de e-banking. J'ai trois exemples. Celui de ma belle-mère qui a 70 ans et de ma mère qui a 70 ans. Elles ne sont pas issues d'un monde où on avait l'habitude d'Internet. Et la première voyage, beaucoup, elle est très contente de pouvoir payer et suivre ses factures depuis l'étranger. Elle ne doit pas revenir régulièrement en Suisse pour relever son courrier. Elle peut recevoir un maximum de choses par Internet et faire ses paiements par Internet, alors que c'est une personne, c'est une retraitée. Et la deuxième, un lumbago chronique, elle est très contente de pouvoir faire du self-scanning à la coop. Quand elle fait ses commissions, elle est quitte de sortir toutes ces choses de son caddie et de le refaire. Encore une fois, elle est aussi très contente et c'est une personne de 70 ans. L'autre exemple que je trouve intéressant, moi j'ai vécu une année dans un pays anglo-saxon, il y a 2 ans, et puis dans les bibliothèques publiques, ils ont installé du self-scanning partout. Et effectivement, les employés ont craint de perdre leur travail, etc. Parce que dès le moment où on fait plus le repérage des livres et qu'on les range plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Et non, encore une fois, là, c'est vraiment un système où déjà ça facilitait les choses, où vous mettez votre paquet en entier, il n'y a même plus besoin de passer un livre par un livre, c'est vraiment un système qui n'existe pas encore en Suisse. Et au contraire, ils ont développé des activités sociales dans le cadre des bibliothèques, où ils ont créé des groupes de tricot, des groupes de lecture ou d'aide à la lecture, chose qui existe aussi ici, mais ils ont vraiment repensé tout le concept de la bibliothèque, et dans la bibliothèque que je fréquentais en tout cas, personne n'a perdu son boulot et au contraire, il y a eu une relation sociale qui était bien meilleure que la personne qui passe des livres à longueur de journée. Voilà, donc c'est quand même des évolutions positives. On est peut-être dans une période un peu de transition qui est vraie un peu ici, mais pour le moment, moi, j'ai vu que du positif.
C'est assez encourageant, le témoignage de madame, pour le monde des bibliothèques, en tout cas.
Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'elles sont mieux payées?
Bon, au moins, elles sont payées, disons. Oui.
Ouais, qualification, du coup, ils sont animateurs. Hein. Alors, est-ce qu'ils sont mieux payés? Moi, c'est clair.
Est-ce qu'il faut organiser des cours de tricot dans la coop et la Migros? Ouais.
Pourquoi pas? Ouais, bah, on va les appeler.
Ou des cours de cuisine ou.
Bah, moi, je me demandais aussi tout à l'heure, les robots. On est pour, contre. Les robots, ils payent pas d'impôts, ils consomment pas, ils sont pas bénévoles, ils nous parlent pas encore, ou très peu, pas, on les voit pas encore beaucoup. Ils font pas la grève, c'est pas intéressant. Du coup, qu'est-ce que ça, je suis un peu provocatrice, mais qu'est-ce que ça contribue au niveau aussi des consommateurs? Si petit à petit on laisse la place à ces robots, les personnes, la solution pourrait être, on réduit les temps de travail? Ça serait génial, comme ça on a plus de temps pour la société, pour nous-mêmes, pour notre vie privée, évidemment en ayant toujours le même salaire, mais c'est par l'instant, on constate que c'est plutôt des attaques qu'on a au niveau des conditions de travail. Alors, si ces robots ils nous prennent la place, nous, on va devoir travailler à petit pourcentage avec plusieurs boulots différents et cela ne donne pas un futur, un avenir très, très... Oui, effectivement.
Un peu le travail sur appel.
Travail sur appel, effectivement.
Qui existe déjà, hein, mais.
Oui, télétravail aussi, on parlait l'autre jour. C'est la nuit, on franchit cette différence entre la vie privée et puis la vie professionnelle. On n'a plus de différence. Voilà, c'est des choses que si on avait ces garanties, c'est très important de donner des garanties.
Vous parliez de formation tout à l'heure, je crois que c'est effectivement très important parce qu'il y a aussi des nouveaux métiers qui arrivent. Hein, donc, toutes ces machines, ces robots, le développement de ces factures électroniques et l'évolution, il y a des métiers qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas suffisamment expliquer aux jeunes pour donc là quel rôle vous jouez par exemple syndicat pour accompagner les employés, les collaborateurs aujourd'hui dans la formation continue pour avoir accès à d'autres métiers, une évolution surtout pour les plus jeunes que vous représentez.
Alors d'une part, nous on exige clairement que les entreprises elles forment de manière rétribuée aux employés dès la formation continue jusqu'à la réorientation professionnelle. Après les rôles je dis tout le temps les rôles du syndicat, c'est pas seulement la protection de conditions de travail des travailleurs, sinon aussi la formation. effectivement, nous, on donne toute une palette de formations différentes et on est en continue recherche des nouvelles formations pour nos employés.
Pour les employés, pour voilà. On le voit aussi dans le domaine du voyage, hein, dans les aéroports aussi. Hein, on a moins en moins affaire à une personne avant de monter dans un avion. Dans l'avion, encore un peu. Mais là, le check-in se fait aussi depuis chez soi, en stationnaire. Après, actuellement, on peut même imprimer directement l'étiquette et puis donner son bagage sans voir personne. Donc, on voit que c'est vraiment dans tous les domaines que le fais-toi-même se poursuit. Dans le domaine de l'aviation, il y a peut-être des baisses de prix, mais pour différentes raisons, hein, effectivement, pas liées à ça. Mais quelqu'un d'autre a envie de réagir sur ce thème, sur cette question ? Monsieur au fond.
Merci. Oui, je trouve ça intéressant parce qu'on met en relation deux aspects qui me semblent un peu différents quand même. Il y a le fait toi-même. Alors, OK, au magasin, on fait du self-scanning ou bien du self-checkout, enfin, tous ces beaux acronymes. Et puis, on met ça en relation avec les moyens de paiement. Et c'est peut-être juste cet aspect-là qui me perturbe un peu parce que finalement, recevoir une facture, on a toujours reçu des factures. Donc, le travail, on l'a toujours fait. On a dû ouvrir sa boîte aux lettres, ouvrir les enveloppes, les empiler, les traiter à la fin du mois, effectivement, soit aller à la poste ou trouver un autre moyen, mais ce travail, on l'a toujours fait. Donc, est-ce que c'est correct de vouloir mettre sur la même discussion, finalement, le fait tout toi-même ou le changement de méthode d'organisation qui touche le commun des mortels? Et l'histoire de la facture électronique, ben, c'est une facilité pour certains, ça n'apporte rien à d'autres, ok. Dans certains cas, on peut obtenir des avantages, dans d'autres pas, mais je crois que le travail, il a toujours été fait. Et puis, qu'on soit sur la facture électronique ou bien la facture papier, si on tombe malade et puis qu'on n'a pris aucune anticipation, le problème est le même. Donc, je pense pas qu'on doive mélanger ces deux aspects. Et je pense qu'il y a des gains, il y a des changements d'organisation, des changements dans les processus finalement des uns et des autres, et qui ne sont pas forcément communs. Et puis l'élément encore à côté de ça, on parle de la robotisation, ces méchantes machines qui ne payent pas d'impôts et puis qui ne payent pas d'assurance sociale, etc. Mais j'aimerais juste qu'on remonte 100 ans en arrière. C'était la même chose avec l'arrivée de la mécanisation dans toutes les tâches. On avait un paysan avec un cheval, et puis avant, peut-être qu'il n'avait même pas de cheval. Après ça, il a eu un cheval, après ça, il a eu un tracteur. Mais est-ce qu'on a fait payer? Est-ce qu'on s'est battu contre le tracteur? Oui, à une époque, certainement qu'on s'est battu contre le tracteur. Puis maintenant, ben, c'est un autre combat. Et je pense qu'on ne doit pas se focaliser sur l'ère numérique du jour, et peut-être voir qu'il y a une évolution au long des dizaines d'années ou des siècles, et que ces éléments-là, ils arrivent. Alors, il ne faut pas forcément tout accepter, mais ces éléments-là, ils arrivent.
Moi, la question, je vais passer la parole à Mme Lemarié, sur l'évolution, vers quelle société est-ce qu'on a envie d'aller? Avec peut-être une nuance, oui, les factures, on les a toujours reçues dans la boîte aux lettres, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a moins en moins d'humains qui interviennent. Vous allez me dire que c'est l'évolution aussi, hein, mais il y a moins en moins d'humains qui interviennent. Est-ce un bien, est-ce un mal? Chacun a sa réponse. Mais par rapport à l'évolution, je vous laisse la parole, Madame Lemarié.
Non, mais juste pour revenir sur la dernière remarque que vous venez d'effectuer. En fait, oui, alors du coup, la mécanisation, on l'a connue bien avant. On a connu à la fin du 19e siècle, on a eu la révolution industrielle. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après, on a eu les 30 glorieuses, c'est-à-dire une augmentation massive de la consommation et donc des nécessités de production. Donc, l'impact, en tout cas, sur l'employabilité a été quasiment nul. C'est pas la situation que l'on vit aujourd'hui. Où justement on n'a pas cet essor de la consommation comme on a vécu auparavant. Donc se pose la question, et moi je ne suis pas spécialiste de ressources humaines, mais c'est sûr qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens, en fin de compte, qui vont de toute façon à terme perdre leur emploi, parce que les projections, elles sont pas très optimistes par rapport aux emplois dans le futur, en tout cas au niveau des emplois les moins qualifiés. C'est sûr qu'on n'est pas du tout très optimiste. Et de la création d'emplois qui va s'effectuer notamment à cause, bien sûr, du développement du nombre d'ingénieurs dont on aura besoin, enfin, du développement de toute façon des emplois qualifiés, va pas permettre de remplacer, en fin de compte, tous ces emplois non qualifiés. Donc, on va avoir des personnes qui vont certainement rester sur le bas de la route. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai que je pense qu'en tout cas, de toute façon, les entreprises, mais les États, de point de vue général, n'ont pas eu cette réflexion. Justement, on est sur une réflexion qui est à très court terme et on a du mal à voir à moyen terme et à long terme qu'est-ce que l'on fait. Justement, parce que pour l'instant, tous les gains effectués en termes de temps et de capacité, on va dire, de production, ont été répartis, enfin concentrés au niveau du capital. Et là, je suis complètement d'accord avec vous. Il n'y a pas eu de répercussions, pour l'instant, en tout cas positives, au niveau, par exemple, réglementation du droit du travail ou changement en termes d'horaire. Donc, il n'y a pas eu de répercussions positives au niveau de la société en général, en tout cas pour l'instant. Peut-être que ça va arriver, mais pour l'instant, on l'observe pas.
Et dans le cadre de l'évolution, est-ce que dans votre société, à Six Payment, par exemple, Paynet, par exemple, est-ce que vous engagez massivement des nouveaux collaborateurs? Est-ce que c'est un secteur qui engage? Puisque l'évolution va dans cette direction.
Bonne question. Oui, il y a des engagements qui se font. Maintenant, je pense qu'il y a surtout un transfert de métiers. Il y a des métiers qui existaient encore il y a peut-être 15 ans, qui n'existent plus. Et puis, il y a effectivement des nouveaux métiers. Alors, pas seulement des ingénieurs, il y a aussi des besoins de personnes au support ou des choses comme ça. Quoi. Alors là, effectivement, il y a un changement, quoi, clairement. Quoi, ouais.
Que vous constatez ou qui est théorique? Vous constatez vous-même au quotidien, vous voyez une évolution dans la société?
Il y a des métiers, enfin, je sais pas, dans la technologie web ou comme ça, qui n'existaient pas il y a 15 ans en arrière, qui aujourd'hui sont demandés. Il y a des profils qui aujourd'hui sont extrêmement recherchés, qu'on ne retrouve pas dans la gestion de projets ou des choses comme ça, quoi. Effectivement, c'est peut-être des métiers avec une compétence qui demande une compétence un peu plus élevée, c'est clair, mais il y a des spécialistes aussi au niveau informatique. On voit toutes ces applications sur les smartphones, il faut des compétences particulières qu'on ne retrouve pas sur le marché. Et ça, c'est des personnes qui ont une facilité déconcertante à trouver du travail, qui ont ces compétences.
Qu'on ne trouve pas sur le marché, dont les filières formation ne sont pas toujours adéquates
Non, il y a un décalage entre les besoins aujourd'hui et puis les filières de formation, quoi. Ça, c'est certain, quoi. Mais il y a tout un. Je crois qu'à l'avenir, il y a encore beaucoup de métiers qui devront être inventés parce que tout simplement, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, des nouvelles choses qui arrivent, et puis il y aura des nouveaux métiers à inventer, quoi.
Monsieur.
Oui, et j'aimerais vous poser une toute autre question. Au niveau de la sécurité, surtout si je pense à e-banking, il y a quand même, oui, on fait le paiement de New York, de Singapour, où toujours on est. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui au niveau de sécurité de tout ça? Parce que c'est quand même assez privé, si on veut, à la fin.
Vous êtes directement interpellé.
Alors. Je vous répondrai, faites la comparaison avec un document que vous envoyez par poste. Quelle est la sécurité à ce niveau-là? Est-ce que c'est plus important? Est-ce que c'est moins important? Il y a quand même une identification forte qui doit se faire quand vous accédez à un e-banking. D'un autre côté, vous avez des réseaux sociaux où des gens publient beaucoup de choses personnelles. Chacun a sa propre notion de ce qui est sécurité, de ce qui est donné sensible, confidentiel. Maintenant, dans l'e-banking, c'est vrai qu'il y a une identification forte qui se fait. Et les banques sont très sensibles à ce sujet-là. Elles sont précurseurs aussi par rapport à peut-être d'autres applications qui viennent aussi.
Maintenant, il n'y a pas de système sans faille, ça c'est certain, hein, quel que soit le domaine.
Ces risques. Bon, vous parlez de la poste, quand on payait par poste, c'est vrai, on entendait qu'ils allaient piquer les bulletins de versement dans les boîtes aux lettres. Il y en a peut-être eu, mais est-ce qu'il y a eu des études pour voir si un système était meilleur que l'autre?
J'ai pas connaissance d'études, simplement on fait des fois des analyses en disant, ben voilà, aujourd'hui, enfin, si vous envoyez un courrier par papier, ben, où est-ce qu'il y a des éléments de sécurité? Puis après, ben, si vous l'envoyez sous forme électronique, quelles sont les sécurités apportées? En principe, la sécurité est clairement plus élevée, quoi. Maintenant, comme vous le dites, puis que tout le monde est d'accord, la sécurité 100%, ça n'existe pas, quoi.
Notre intervention, monsieur?
Moi qui suis dans le domaine de la sécurité informatique, je peux tout de suite dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de sécurité. Monsieur, il travaille pour Six, par exemple. C'est eux qui ont ces petits appareils qu'on paye à la carte, à la Migros ou comme ça. Il y a de toute façon des failles de sécurité à l'intérieur de l'appareil que ça soit logiciel ou matériel, hein, parce que ce que les gens, par exemple, ont de la peine à concevoir, c'est qu'il y a des failles matérielles qu'on ne peut pas boucher avec le logiciel derrière, où c'est, il y a un problème carrément dans le matériel, et puis là, voilà, si on connaît la faille matérielle, on vient et on rentre à l'intérieur. Les cartes aussi, par exemple, pour sans contact ou comme ça, c'est pas sécurité, il n'y a pas de sécurité là-dessus. On vient avec un appareil, on met contre le porte-monnaie et puis on récupère toutes les données qu'il y a à l'intérieur de la carte.
Effectivement.
Ça, c'est connu. Voilà, bon. Dans la sécurité informatique, c'est pas dur. On colmate les brèches que les autres ont trouvées. C'est souvent comme ça. Hein. On voit par exemple avec les processeurs Intel ou comme ça qui ont des failles de sécurité puis qui ralentissent les machines si on les bouche. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, c'est un autre. Mais moi, j'ai une autre question qui est plutôt le coût sociétal. Mais pas le coût sociétal pour les vendeurs ou bien pour les employés de banque ou tout cela. Le coût sociétal pour le consommateur lui-même. Par exemple, il reste à la maison pour payer ses factures, il ne voit plus la caissière, donc il a moins de contact humain. Et on sait que le contact humain est indispensable pour notre vie en société. Alors, au seul point de vue, par exemple, psychologique, psychiatrique, quel est le coût chiffré, hein, je parle plutôt chiffré en francs suisses ou en euros ou en dollars, ça m'est égal, par rapport à ça. Combien ça coûte aux caisses maladies, combien ça coûte au gouvernement, hein, à l'État et tout, par rapport à ça, par rapport à ce manque de lien social?
Alors, je ne pense pas qu'il y ait des données chiffrées sur ça. Mais en tout cas, ce que l'on a observé, c'est vrai, dans les dernières années, c'est un développement des addictions de type comportemental. Alors ça, c'est des choses qu'on n'avait pas obligatoirement avant. Et maintenant, en fin de compte, du coup, les consommateurs ont tendance à développer des addictions. Alors, des addictions comportementales, c'est addiction à Internet, addiction aux réseaux sociaux. Donc, on ne peut plus vivre sans les réseaux sociaux, on ne peut plus vivre sans accès à Internet. On a les addictions comportementales de type aussi, bon, bah, jeux en ligne, jeux au casino. On a aussi pas mal de choses avec des accros au shopping. Mais c'est toutes ces addictions-là qui se sont développées dans les dernières années. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que ces addictions se sont pas créées justement du fait, bah, déjà, d'une accessibilité beaucoup plus facile et pratiquement continue à différents objets de consommation, pour les accros au shopping, pour Internet, pour Facebook, mais aussi par justement une diminution des liens sociaux qu'on peut avoir avec les gens, parce que, en fin de compte, ce qui nous protège de toute addiction, c'est les liens sociaux, c'est notre réseau social, c'est ça qui nous protège.
Mais le réseau social migre aussi sur le numérique, et on le voit bien avec les écoliers. Hein. L'écolier est en classe toute la journée, il est dans la cour de récréation, il mange à midi avec ses camarades, il rentre chez lui, il est toujours dans la cour de récréation, oui, à travers son smartphone. Donc l'interaction, elle va continuer jusqu'au moment où il s'endort, s'il s'endort, et reprendre le lendemain matin. Donc l'interaction, elle va être plus importante, mais elle va être totalement modifiée. Alors est-ce que c'est une évolution positive? Le monsieur qui était au fond parlait d'évolution positive. Peut-être que c'est une évolution positive ou pas, à chacun de répondre.
Oui, enfin justement, les études aussi sur les réseaux sociaux sont pas obligatoirement très très positives en termes de liens créés via les réseaux sociaux, parce que justement on est sur quelque chose qui est extrêmement superficiel, où on a tendance à se présenter obligatoirement que sur les côtés positifs, extrêmement moins sur les côtés négatifs, et on a aussi l'observation de la montée drastique de tout ce qui est harcèlement scolaire, notamment par le biais des réseaux sociaux, parce que justement les étudiants maintenant, enfin les élèves du secondaire peuvent être harcelés à partir du moment où ils se lèvent jusqu'au moment où ils se couchent via
et
les
même
réseaux
entre
sociaux.
Eux, ils se réveillent le matin et constatent des gars. Mais ça, c'est encore un autre débat, effectivement, une autre
donc
dérive
ça, c'est
de la
vraiment un autre, c'est vraiment un autre mais débat, c'est ça, mais c'est vrai que
c'est aussi une des partie des dérives. Quoi. Ouais, tout à fait. Notre intervention, monsieur.
Il y a quand même encore deux aspects que j'aimerais bien entendre traités par le panel. C'est d'une part très clairement une augmentation lente mais indiscutable des cas de burn-out, relation avec des situations professionnelles difficiles, surtout professionnelles. Et puis l'autre aspect, qui est quand même de trouver un emploi pour des jobs peu qualifiés, naturellement qu'on peut améliorer par une formation. Mais enfin, tout le monde ne finira pas avec un diplôme de l'École Polytechnique Fédérale ou d'une université ou d'une haute école. Pas parce que les gens... Moi, je pense qu'il y a bien... La majorité des professions sont accessibles avec une intelligence moyenne encore. Faut-il s'entendre sur ce qu'on définit comme intelligence, hein? Mais même si on se fie à une définition de test, je pense que la plupart des professions sont accessibles à quelqu'un de moyen. Mais il existe quand même des gens qui ont beaucoup plus de peine. Et ces gens, ils ont aussi une certaine dignité. Et peut-être en Suisse, peut-être encore un peu plus que dans d'autres pays. On voit très bien, par exemple, pour le droit au chômage, il y a bien des gens qui, par fierté personnelle, alors qu'ils sont une année, deux ans sans gain, attendront le dernier moment pour s'annoncer au chômage.
Qui sortent aussi du chômage après.
Oui, naturellement, voilà, c'est clair. Et puis ça, c'est lié aussi à cette nouvelle tendance de donner un gain universel à tout le monde. Alors, j'entends vous croisiez le fer là-dessus.
Par rapport au burn-out, on a déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais ça, c'est un problème qui est réel, hein. Et puis après, on revient sur cette question de formation, d'accès. Alors, où est le problème? Est-ce que le problème se situe auprès de l'employeur, auprès des syndicats, auprès des autorités dans les systèmes de formation, dans les possibilités d'apprentissage? À votre avis, où se situe le nœud, si j'ose dire?
En tout cas, je pense qu'on est tous un peu responsables. Les nouvelles technologies, les nouvelles métiers comment le monde il change, fait que on réagisse peu à peu. Hein. Les syndicats, c'est une grande machine, hein. Et c'est les propres travailleurs qui vont nous faire part de leurs soucis. Nous, évidemment, on fait aussi des liens de recherche, mais par exemple, vis-à-vis du burn-out, pourquoi ce burn-out? Ben, c'est, comme on a dit tout à l'heure, le stress, mais c'est aussi les contrôles. De plus en plus, on a des contrôles. Ces nouvelles technologies donnent l'accès au patron à contrôler à tout moment les personnes. La disponibilité permanente. Tout à l'heure, on a parlé de télétravail. On doit être par WhatsApp. On parle à 8h du soir. Pour les lendemains, au niveau de l'organisation, c'est beaucoup. On responsabilise trop l'employé par rapport à beaucoup de tâches différentes qu'avant, ils n'étaient pas habitués. Alors, on est surchargé. C'est là que je reviens un peu à... Je ne voulais pas non plus... les syndicats, évidemment, on n'est pas comme à l'époque, à la révolution industrielle, où ils cassaient, où ils brûlaient les machines. On veut aller de la main, effectivement, avec les entreprises pour trouver des solutions. Et la solution, c'est cette formation et puis aussi une transparence vis-à-vis de ces changements. Qui est une étude qu'on arrête un peu avec ses profits et que ça soit une répartition un peu des richesses et surtout au niveau social et humain, que ça soit un peu plus, on puisse garder la COP et la Migros. Ils parlent beaucoup maintenant, ils ont établi un nouveau système de care pour les familles, c'est très important dans les familles, mais après on voit que les femmes enceintes, elles sont tout de suite licenciées, ou là j'en ai eu trois vendeuses qui veulent pas établir un jour fixe. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés quand même entre syndicats et patrons pour avoir des travails justes et puis équitables, oui, avec des bonnes conditions. Alors, qu'on travaille encore plus de la main, ça c'est clair.
Une autre intervention de la salle.
Ouais, moi j'ai une question à vous poser, elle est même sur le papillon. Qu'est-ce qu'on peut faire, les gens qui ne souhaitent pas entrer dans le jeu? Enfin, on voit que...
Que peuvent faire les personnes qui n'entrent pas dans le jeu, vous dites?
Exactement.
Que peuvent faire les personnes qui n'entrent pas dans le jeu? Quelle est la liberté de choix? Est-ce qu'elle existe? Qui veut répondre, M. Albrecht, peut-être?
Comme ça a été dit, tout le monde n'utilise pas encore l'e-facture. Donc, je crois que la liberté de choix, elle est clairement là. Les entreprises proposent encore sur ce domaine-là. Si vous allez dans proposent encore des factures papier. Si vous allez dans le commerce, vous avez le choix d'aller peut-être dans un centre commercial et de faire du self-scanning ou pas, ou bien d'aller à l'épicerie de quartier. Je crois que c'est ça, la liberté. Enfin, je vois pas vraiment un souci.
Aujourd'hui, pour élargir la question, est-ce qu'on est finalement, le consommateur n'a pas davantage de choix qu'avant, c'est-à-dire qu'il peut passer, il peut faire lui-même, il peut aller à la caisse aussi, où il va continuer à trouver, heureusement, encore du personnel qui va faire ce travail. Il peut aussi aller, comme vous le disiez, à l'épicerie en vrac avec ses propres emballages. Donc le consommateur a peut-être davantage de choix aujourd'hui et libre à lui, à elle, de choisir le système qui va mieux le convenir. Madame. On y revient, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit le consommateur obtient un rabais parce qu'il fait lui-même, ce qui n'est pas le cas, soit le consommateur, au contraire, va être taxé, ces fameuses taxes punitives, parce qu'il ne souhaite pas faire lui-même et qu'il continue à bénéficier des prestations. Alors, légalement, il n'y a rien... Il n'y a rien interdit, ni rien autorisé. C'est ni autorisé, ni...
Donc, on peut très bien avoir une demande par un avocat pour contrer ces frais qu'on nous impose, en fait.
Vous pouvez aller vers l'avocat, mais l'avocat n'aura aucun outil juridique pour... Il y a des éléments abusifs, bien sûr, qui peuvent entrer dans des factures. Mais le fait de dire, vous payez avec un bulletin de versement, ça vous coûte 1,80 francs ou 2 francs de plus, là, il n'y a rien... ne l'autorise expressément, mais rien ne l'interdit non plus. Par contre, là, je vous invite toutes et tous, il y a régulièrement des élections en Suisse à tous les niveaux, communal, cantonal, fédéral. Eh bien, voilà, c'est un thème, c'est un sujet. Pourquoi pas ? Parlez-en à ceux qui font de la politique autour de vous. Ça peut être un sujet.
Alors, je ne trouve pas que c'est un vrai choix de liberté. Si on nous fait, si on nous taxe, on n'a pas vraiment le choix. C'est soit l'un, soit l'autre. Si on ne rentre pas dans le moule, on vous paye, vous passez à la
caisse. C'est la situation actuelle, bien sûr.
Voilà. Alors, on ne peut pas parler de liberté.
C'est un constat, bien sûr.
Il
ne
faut pas parler de liberté. Ouais.
Vous êtes d'accord avec ce « on ne peut pas parler de liberté »
On choisit la liberté, ce n'est pas de choisir ses contraintes, quelque part.
Qui veut réagir ? Est-ce que la liberté... Bon, alors, on part dans la philosophie, là, mais est-ce que quelqu'un veut réagir ? Il y a une question juste derrière. Ah non, pardon, ça c'est le... Ah, si, il veut réagir.
Oui, bonjour. Par rapport au bulletin de versement, comme actuellement on a encore le choix de pouvoir payer, sauf erreur, il me semble que pour 2020, ça sera supprimé et remplacé par un QR code. Donc,
Est-ce que le QR code va subsister jusqu'en 2020
Exactement.
Merci de poser la question, comme ça me permet de vous répondre. Effectivement, il y a un changement qui va s'opérer sur le support, si on veut bien. Et puis, plutôt que ce soit un bulletin de versement, ça va être un QR code plus des informations qui seront sous forme écrite à côté. Ça va être probablement introduit ce qui est prévu actuellement, c'est mi-2019. Rien ne vous empêche de payer ce bulletin de versement après encore, si vous le souhaitez, au guichet de la Poste. Quoi. La Poste va s'équiper de scanners pour pouvoir les traiter, mais rien ne vous empêche d'aller payer ça au guichet de la Poste, c'est ce qui est prévu. Après, vous pouvez aussi scanner le QR code avec votre smartphone qui est connecté à l'e-banking. Après, c'est un choix. Qu'est-ce qui est pour vous le plus confortable, quoi.
La dématérialisation. Madame, vous voulez réagir ?
C'était juste une petite anecdote. Je crois que c'était dans un programme de Bon Entendeur. Il parlait de l'introduction en France des caisses libres. La première fois qu'ils sont faits, ils sont introduits genre dans une grande surface, 40 ou 50, face à 5 caisses normales, traditionnelles. Ils ont fait une chute des bénéfices, mais incroyable, parce que les gens, ils connaissaient pas, ils savaient pas, ils s'énervaient. Voilà, tout fait partie d'une évolution. Mais je trouvais que c'était quand même rigolo, non? Des fois, on pousse trop l'être humain, la société à évoluer très vite, et après, on revient en arrière avec j'ai bien aimé ces magasins en vrac, par exemple. Quel est l'équilibre ? Est-ce que on aura toujours des réfractaires? Moi, je n'ai jamais utilisé les Pasabene et Zalando. il y aura toujours, mais petit à petit, on va être poussé effectivement à ça. À nous de trouver aussi des tout à l'heure on parlait aussi des mesures qui sont avec la nature aussi qui sont plus dans une conscience plus juste par rapport à tout, à cette consommation aussi, à nous demander jusqu'à quel point on doit consommer autant ou et quelle est l'importance de notre temps.
Voilà, l'équilibre, ça c'est de nouveau à chacun de répondre. Là, l'heure tourne, donc on arrive gentiment à la fin du temps qui est alloué pour le café scientifique. Est-ce qu'il y a encore une petite question? Sinon, madame, juste la toute dernière question.
Je voulais juste savoir, je connais pas mal de personnes âgées que je côtoie, puis ils n'ont ni un email, ni internet, et ils sont très, très embarrassés, et puis... Ils savent, comme je l'ai dit déjà, qu'il n'y aura plus les multiples versements bientôt, ben ça leur fait peur parce que, il a dit, oh ben c'est le moment de partir à Borga. Voilà. C'est-à-dire, ça les.
Une situation
les...
angoissante aussi,
oui, très angoissante.
Pour une certaine partie, oui, de la population, bien sûr. Oui. C'est clair. C'est clair. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, moi, je propose qu'on fasse un dernier petit tour de table pour que chacun apporte un peu sa conclusion. Donc, là, vous parliez tout à l'heure, madame Delpino, de la transparence et du partenariat avec les entreprises, hein, entre entreprises et syndicats. Le syndicat ne casse plus, mais souhaite vraiment être partenaire. Est-ce qu'on va vraiment dans cette direction? Est-ce qu'il y a une volonté de travailler sur ce partenariat, sur ce sujet-là, en tout cas? Très court.
On va dire que c'est ça qu'on essaye. Nous, en tout cas, on demande des garanties par rapport à cette transparence.
Est-ce qu'on vous entend? C'est ça ma question. Est-ce qu'on vous entend de l'autre côté?
C'est difficile. C'est encore difficile. Mm-hmm. Mais ceci dit, on continue la lutte, bien sûr.
Monsieur Albrecht, vous entendez ce que madame vient de dire? Est-ce que vous allez relayer ça demain dans votre entreprise? Au moins à ce niveau-là, COP et Migros ne sont pas là pour donner leur version, mais chez vous, comment ça va se passer?
Personnellement, c'est vrai que je suis assez à l'aise puisque c'est souhaité même par l'entreprise de suivre des formations continues. On est encouragé à le faire, quoi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis très à l'aise. Maintenant, je suis bien conscient que ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises qui n'ont peut-être pas forcément un budget formation ou comme ça. Quoi.
Ouais. Et Madame Lemarié, comment est-ce que vous voyez entre les deux, justement, entre les deux, alors peut-être pas directement M. Albrecht, mais la position plutôt des distributeurs ou des banques, des assurances, et le discours de Madame Delpino en conclusion positive, évolutive.
De toute façon, j'ai une position centrale. Voilà, on y revient. Comme au départ, ça a pas changé. C'est drôle parce qu'en fait, justement, l'exemple que vous donniez c'est le supermarché Intermarché et qui est en fait compte juste à côté de chez mes parents. Donc j'ai vécu c'était en 2009 et ils ont fait justement 48 caisses et il y en avait plus que 5 qui étaient en. Et ça fait c'était atroce. Il y a eu d'autres cas hein, comme ça d'ailleurs où ça a vraiment pas fonctionné. IKEA aussi aux États-Unis quand en 2013 ils ont mis en place le self-scanning, ça n'a pas du tout marché, il y avait des queues énormes qui se formaient et puis du coup avec les gens qui étaient vraiment mécontents du temps d'attente qu'ils devaient passer après avoir dû faire tout le magasin IKEA après arriver aux caisses ils devaient encore passer du temps pour pouvoir passer leurs achats, donc ça n'a pas non plus donc en gros justement en conclusion on pourrait dire qu'à la fin c'est quand même le consommateur qui décide parce que s'il n'est pas content de toute façon les systèmes s'arrêtent. IKEA donc a revu son système. Il a quand même mis en place de toute façon un système maintenant qui n'est pas encore valable en Suisse, mais qui va certainement bientôt l'être, juste où on peut utiliser son téléphone. Enfin, déjà, on peut utiliser son téléphone pour savoir où les produits IKEA sont placés dans le magasin, etc., pouvoir se repérer dans le magasin. On ne peut pas encore payer avec son téléphone chez IKEA, mais certainement que dans un futur proche, ce sera le cas. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra tout faire avec son téléphone et quasiment sans croiser aucun employé, parce qu'en fin de compte, on ira avec son téléphone. Et les évolutions, elles sont vers là. Il faut quand même le voir et le comprendre. On n'est pas en train d'essayer de faire en sorte que ça s'arrête. Ça ne va pas s'arrêter du tout au self-scanning. On va avoir des évolutions qui sont beaucoup plus importantes que ça. Le nouveau magasin Amazon à Seattle le démontre encore justement là, dernièrement en janvier. des gens qui rentrent dans le magasin, qui mettent juste donc qui s'enregistrent sur leur téléphone, qui mettent leurs courses dans leur sac, qui sortent et qui n'ont rencontré aucun employé parce qu'en fin de compte tous leurs faits et gestes ont été repérés avec des systèmes à l'intérieur du magasin. Donc c'est des choses qui sont de toute façon en train de se développer de manière encore plus exponentielle aujourd'hui, qui sont amenées à s'accroître dans le futur. Après, justement, avec les conséquences qu'il peut y avoir et des discussions qui doivent être menées, parce que c'est pas les organisations qui vont d'elles-mêmes, en tout cas, arrêter ces évolutions. Donc, à nous de voir si on veut que ces évolutions, justement, continuent ou pas.
Et tout ça, c'est donc de votre faute, vous l'avez bien compris ce soir. C'est vous qui le demandez. Avant de passer la parole à M. Schlemny, j'ai juste envie de vous recommander la lecture, peut-être que vous l'avez déjà lu, d'une BD qui est sortie là au début de l'année de Enki Bilal, qui s'apparaît même à la fin de l'année dernière, qui s'appelle Bug, et qui se passe en 2041. C'est une petite BD très sympa, très bien, en plus les dessins sont magnifiques, et qui amène justement à réfléchir sur toute l'évolution de cette société avec le mot bug, donc la panne informatique, la panne plus qu'informatique, hein, la panne du système en 2041. Très beau livre qui permettra de continuer la réflexion sur ce sujet et de vous rappeler que c'est vous les coupables. Je vous passe la parole.
Oui, alors je rebondis sur le bug, je viens de le terminer, je suis très frustré, c'est le livre 1. Donc on n'a pas de suite, tout est ouvert. Je me suis fait avoir, je pensais que j'aurais
la fin. Il faut patienter.
Alors, merci beaucoup en tous les cas, Madame Hersan-Berdeau, pour avoir animé ce café scientifique. Merci aux trois intervenantes et intervenants qui se sont déplacés pour venir ici. Je voudrais vous rendre attentif que le prochain café scientifique, le 18 avril, n'aura pas lieu ici, mais on fêtera dignement le printemps au Jardin botanique de Neuchâtel, à l'occasion des festivités des 20 ans de ce même jardin au vallon de l'Ermitage. Donc pendant toute l'année, le Jardin botanique organise plein de manifestations, d'événements que je vous invite à découvrir. C'est une équipe formidable. Et donc le 18 avril, on sera au Jardin botanique et on croise les doigts pour qu'il fasse beau parce que le débat aura lieu dehors, sous les arbres. Voilà. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne Pâques. Je veux remercier encore la technique Joël Morf. Et je vous invite à nous retrouver donc au Jardin botanique le 18 avril. Même heure. Merci beaucoup. Au Jardin botanique, on parlera de la thématique des plantes locales face au marché global. Voilà.